Le quart d'heure assurance avec les agents d'assurance, des femmes et des hommes proches de vous, proches de chez vous. Jérôme Debardis.
Mardi matin, rime avec assurance, quoique pas du tout d'ailleurs. Bonjour Jérôme Debardis.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
On a déjà fait une chronique sur le médiateur, à quoi ça sert, quand est-ce qu'il entre en action. Mais on vous invite à aller la réécouter sur le site internet de Radio Présence, www.radioprésence.com. Aujourd'hui, nous allons voir les cas dans lesquels le médiateur intervient dans les sinistres traités par le médiateur, et il y en a 93. Je vous cache pas qu'on va pas toutes les faire aujourd'hui. Notre spécialiste assurance en a sélectionné 3.
Ça s'appelle du lancement. Avons décidé d'être un peu plus pratique aujourd'hui, du pratico-pratique, pour permettre à nos auditeurs de tirer des conclusions de la position que prend le médiateur entre donc un assuré et son assureur lorsqu'il y a un litige. Et on en a sélectionné 3 qui vous intéressent tous, qui nous intéressent tous. Et le premier, c'est de savoir que dans un contrat d'habitation, par exemple, que vous avez des déclarations, vous assurés, à faire, et elles vous engagent. Et nous assurés, d'ailleurs, puisque je suis comme vous, un assuré. Et donc, elles nous engagent, et particulièrement une question qui est très classiquement posée sur le décompte du nombre de pièces. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le décompte du nombre de pièces ? Eh bien, vous avez un appartement et on vous dit combien avez-vous de pièces principales ? Alors, notion de pièces principales.
Ah oui, il faut définir qu'est-ce qu'une pièce principale.
Qu'est-ce qu'une pièce principale ? Alors, c'est effectivement défini dans les conditions générales qui font 75 pages, que les gens lisent ou ne lisent pas. Et donc, ils considèrent qu'une pièce, une pièce, on ne regarde pas tellement la taille. Or, chaque compagnie d'assurance a sa définition et il incombe à l'assureur un certain nombre de choses, et notamment de bien vous informer sur le sujet.
Sauf que bien informer, c'est pas forcément être très clair. Et voilà. C'est la clarté qui manque dans ce genre de situation.
Donc là, j'ai un cas, donc le premier cas qui est traité par la médiation, par le médiateur, M. Schneiweiss.
C'est vrai.
Voilà. Et qui nous parle d'une notion de pièce principale dans un contrat. On ne dit pas quelle est la compagnie. Et au cours du sinistre, l'assureur s'aperçoit que l'assuré a commis une erreur s'agissant du nombre de pièces principales, parce qu'il faut compter une pièce de plus de 40 mètres carrés pour deux. Et est-ce que quelqu'un lui a dit ?
Est-ce que ça a été clairement présenté ?
Est-ce que ça a été clairement présenté ? Là, dans ce cas de figure, l'assureur, ne démontre pas qu'il a bien expliqué à son assuré de quoi il s'agissait. Et par conséquent, le médiateur donne raison à l'assuré.
Voilà.
L'assureur qui voulait appliquer ce qu'on appelle une règle proportionnelle, c'est-à-dire en fait une diminution d'indemnité proportionnelle à la prime qu'il aurait dû payer par rapport à celle qu'il a payée.
Il n'a pas un métier facile, le médiateur.
Il n'a pas un métier facile. Non, mais vous savez qu'il est quand même suivi à 98%.
Oui.
Quand il prend une décision, les gens, à 98%, elle est suivie tant par l'assureur que par l'assuré. Donc
d'accord.
Ça veut dire que quand même, c'est relativement équilibré. Quoi.
C'est un peu le juge entre deux parties.
Voilà. Donc l'assureur peut opposer une fausse déclaration non intentionnelle, bien sûr, que s'il prouve qu'il a posé une question précise visant explicitement la notion de pièce principale. Voilà, ça, je suis en train de vous lire le document de la médiation que j'ai sous les yeux. Donc voilà, ça veut dire que un assureur doit prouver un certain nombre de choses et que le doute profite à l'assuré. Retenons bien cette phrase.
Le doute profite à l'assuré.
Alors j'ai un deuxième cas maintenant, et il correspond un petit peu au premier, c'est le devoir de conseil de l'assureur. Vous avez un assureur qui assure une maison, et dans cette maison, l'assureur lui-même s'est déplacé pour visiter la maison, parce que d'après ce qu'il en sait, ça nécessite une visite de risque. On appelle une visite de risque. C'est très important d'avoir une personne physique qui vient visiter votre risque.
Vous pouvez toujours demander ça. Oui, ça permet peut-être d'avoir des conseils justement les pièces principales.
Tout à fait. Et en plus, en cas de sinistre, on peut effectivement, si l'assureur ne conteste pas être venu, on peut effectivement dire que il y a eu un vrai souci, parce que le jour du sinistre, on s'aperçoit que le risque n'est pas conforme.
Alors l'occurrence, ça peut être par exemple une cheminée.
Alors ça peut être une cheminée.
Ah oui, vous avez une cheminée. Je vois dans le contrat que vous avez une cheminée. Est-ce que vous avez pensé à la ramonner, de donner le machin,
oui,
le devis,
la cheminée. Mais ça peut être ça.
Ça peut être ça.
Ça peut être ça. Mais ça peut être là dans le cas de figure dont nous parlons. C'est quelqu'un qui a une maison avec des extérieurs. Ces extérieurs sont assez importants, c'est-à-dire un cabanon, c'est-à-dire une pool house, c'est-à-dire et un jour il y a une tempête et il y en a pour 18 000 euros et l'assureur dit ah ben oui moi les extérieurs pour moi ils sont limités à 3 500 euros. Bon alors ça se passe mal bien sûr, l'assuré interpelle le médiateur et le médiateur dit, il constate que l'assureur s'est rendu sur place et il dit vous avez manqué à votre devoir de conseil.
Mais est-ce qu'après c'est pareil, est-ce que les travaux ont été faits avant ou après la venue de l'assureur ?
Alors ça c'est une bonne question, mais en l'occurrence ils étaient faits avant et donc l'assureur n'a pas pu. Mais c'est vrai que on doit aussi en cours de contrat déclarer à l'assureur ce qui peut.
C'est un manque d'observation de la part de l'assureur ?
Alors là en l'occurrence c'est pas seulement un manque d'observation, il l'a vu simplement, il s'est dit bon ben voilà je vais, il faut que ça passe en matière de prix. Peut-être d'ailleurs que l'assuré n'aurait pas accepté ces 18 000 euros de payer pour les fameux 18 000 euros. Mais l'histoire ne le dit pas. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que le jour du sinistre, l'assuré était mal assuré. Et de la faute de l'assureur. Voilà.
Le
médiateur a donné raison à l'assuré. Deuxième cas de figure.
On voit que le médiateur, il intervient vraiment sur tous les cas de figure. Il n'y a pas,
absolument.
Y a pas que... Après, les médiateurs ont des spécialités, des spécialisations dans certains domaines, je présume.
Oui, tout à fait. Alors là, cette fois-ci, le troisième cas, c'est encore une fois un cas de défaut de conseil ou pas. Question, c'est vous avez quelqu'un qui a assuré sa voiture et puis on lui vole le contenu de la voiture. Et il a assuré sa voiture par téléphone. D'accord. L'option effet personnel n'a pas été cochée dans le questionnaire effet personnel, donc transporté. Hein. Dans le questionnaire, l'option n'a pas été cochée, donc l'assuré n'est pas remboursé pour le contenu de sa voiture.
Le contenu qui a été volé.
Il se plaint donc au médiateur. Et là, contrairement aux deux autres cas, on peut constater qu'effectivement, c'est écrit de manière très claire, les objets ne sont pas garantis, les objets personnels. Alors,
donc l'assuré aurait dû dire non, je veux être assuré.
Voilà, c'était quand même à l'assuré, puisque là, il y a une sorte de questionnaire. Aujourd'hui, quand on souscrit un contrat d'habitation, théoriquement, on vous pose des questions très précises, et si vous le faites par téléphone, on vous enregistre, etc., de façon à être sûr qu'il n'y ait pas de contestation.
C'est
et dans ce cas de figure,
entend,
troisième cas de figure, cette fois-ci, c'est l'assureur qui a eu raison. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ces trois cas ? C'est que chaque fois, il fallait se rapprocher de son conseil pour obtenir et ne pas penser qu'on sait lire un contrat d'assurance comme ça. Ça demande de l'expérience et ça demande de la technique. Et seul un assureur peut vous répondre.
Donc il faut pas
beaucoup mieux que l'intelligence artificielle. Là, c'est certain.
Là, ça demande un
certain nombre de gens qui vous expliquent que vous posez la question à votre smartphone et il vous répond. C'est pas vrai.
Non, parce qu'il y a tout. Oui, le meilleur moyen, le meilleur conseil qu'on peut donner pour clôturer cette chronique, c'est demander conseil.
Absolument, absolument. Et c'est le conseil de base qu'on vous donne, qu'on vous procure depuis maintenant pratiquement 2 ans. Ayez un contact avec votre assureur. Ne pensez pas que ça ne sert à rien. Ne pensez pas que l'assureur c'est froid. C'est pas vrai. Un assureur ça peut être chaud. J'espère que vous le sentez à travers mon micro.
Ça peut être chaud. Ça peut être. C'est vivant quoi.
Voilà. On va le dire comme ça.
On a bien vu dans plusieurs chroniques. On a vu dans plusieurs chroniques que les assurances à distance ou internet.
C'est compliqué.
C'est compliqué. Et vous nous avez donné un très bel exemple lors d'une précédente chronique. Qu'on vous invite également, auditeurs de Radio Présence, à écouter en podcast. Merci beaucoup, Jérôme de Bardis.
À bientôt, Jonathan. À bientôt à tous.
C'était le quart d'heure assurance avec les agents d'assurance. Des femmes et des hommes proches de vous, proches de chez vous.